Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'avocat Julius Gray, très célèbre à Montréal, participe à la contestation de la loi 21 et se dit pourtant arreligieux et agnostique. Il insiste, c'est parce qu'elle enfreint une liberté que lui a décidé de ne pas exercer, qu'il conteste cette loi. On lui parle aussi, évidemment, du dossier linguistique. Il estime que la langue française n'est pas en danger à Montréal. Mais d'abord, parlons du secteur hôtelier et de l'aide annoncée par le gouvernement Legault. Québec vient en aide aux hôtels. La majorité recevront jusqu'à 200 000 $ en subvention. Ça fait un paquet de 65 millions additionnels. C'est ce qu'a annoncé la ministre Caroline Proulx. Mais là, au bout du fil pour en discuter, il y a Isabelle Melançon. Bonjour.
Bonjour à vous.
Critique en ces matières au Parti libéral du Québec qui est en congé cette semaine. C'est la semaine en circonscription, mais on sait bien que dans ce temps-là, vous êtes en congé, vous les députés.
Ah, si vous saviez, M. Robitaille, puis vous le savez, je le sais que vous larguez un peu, là.
J'ironise, oui.
Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail dans nos comtés, en tout cas. Puis moi, je suis une fille de terrain. Alors, j'essaie d'être partout, puis principalement d'aider les banques alimentaires, là. Tranquillement, on essaie de s'organiser pour la saison des fêtes. Puis honnêtement, ça augure pas bien actuellement
dans
les banques alimentaires. Non.
Ah oui? Okay. Qu'est-ce qui vous fait conclure ça?
Ben écoutez, pas plus tard que dimanche, j'étais à la Guignolée, mais c'est une Guignolée où on faisait pas de porte-à-porte comme les autres années, hein,
ouais,
à cause de la pandémie. Et on me dit à quel point c'est compliqué, c'est difficile d'atteindre les gens justement pour obtenir des denrées non périssables, d'obtenir aussi les dons des gens parce qu'ils sont difficiles à atteindre. Donc, malheureusement, la demande est à la hausse et les dons ne le sont pas. Donc, on va avoir une période des fêtes qui va être difficile.
Oui, Noël, ça s'annonce assez déprimant cette année. Ou déprimant,
en effet. J'ai jamais dit.
Oui, c'est ça. Bon, alors parlons des hôtels. C'est ce que vous demandiez, une injection de millions de dollars supplémentaires, non? Êtes-vous content?
Bien, là où je suis satisfaite, c'est qu'enfin, la ministre a vu la lumière. Elle a compris que ce que ça prenait, c'était de l'aide directe. Ça fait plusieurs mois qu'on demande du côté de l'opposition officielle, là, de mon côté, de l'aide directe. À chaque fois, on se faisait un peu regarder en se disant « Ben non, c'est bien, vous autres, les libéraux, vous voulez juste qu'il y ait de l'argent direct. » Mais c'est ce qu'ont besoin les hôteliers actuellement.
Oui.
Je vous le dis, à quelque part, je suis heureuse parce qu'on commence à comprendre. En juin, la ministre avait déposé un plan de communication disant qu'il y avait 750 millions pour l'industrie touristique. De ce 750 millions-là, il y avait 92% que c'était sous forme de prêts. Et c'est là où moi, j'avais dit, ça n'a pas de bon sens. Là, les hôteliers, ils ont besoin de liquidité pour pouvoir continuer à opérer. Actuellement, là, M. Robitaille, dans les hôtels partout au Québec, c'est entre 3 et 5% de taux d'occupation.
C'est terrible.
Donc, c'est terrible. Alors, de savoir qu'il y a de l'argent direct et que la ministre a commencé à comprendre son industrie, ça me fait plaisir. Mmh. Mais 38 millions de dollars, alors que les pertes nettes là, actuellement, là, ce qu'on appelle actuellement dans l'hôtelier, c'est de plus de 625 millions de dollars.
Ah oui, mais j'avais lu 65 millions. Vous dites 38? Éclairez-moi.
Non, mais oui, bien sûr, parce que 38 millions, ça, c'est uniquement pour l'hôtellerie.
Okay.
Sur le 65 millions de dollars qui a été annoncé hier par Caroline Proulx, il y a plusieurs programmes. Donc pour l'hébergement 38 millions, pour les OTR, pour les portes d'entrée qu'elle appelle, donc
l'association
Montréal,
touristique régionale, là, oui.
Exactement, Montréal, Québec et l'Outaouais pour le maintien des actifs stratégiques, c'est un 17 millions de dollars. Il y a 2,5 millions de dollars pour la relance de Montréal. Bref, il y a des sommes, mais quand on parle uniquement pour les hôteliers, c'est 38 millions de dollars. Et ça, ça inclut les gîtes, les pourvoiries et les hôtels qui ont entre 4 et 299 chambres. Mmh. Où j'étais déçue hier, là, c'est de voir que la ministre du Tourisme a abdiqué sa responsabilité quant aux grands hôtels qui, eux, hein, ils cherchent encore des solutions parce qu'il n'y a pas de solution pour les hôtels de plus de 300 chambres. Bien, elle a dit, ça, c'est mon collègue, le ministre Fitzgibbon, qui va s'occuper de trouver des solutions. Donc, on est rendu avec un ministère du tourisme. Il y a le volet 1 et le volet 2, bien, c'est à l'économie. Elle abdique ses responsabilités à M. Fitzgibbon. Ça, hier, ça m'a surpris et ça a surpris beaucoup de gens dans le milieu, je dois vous le dire.
OK. Vous demandiez, vous, un congé de taxe sociale?
Non,
ce n'était
pas un congé. Non? Moi, ce que j'avais fait comme proposition, puis merci de le ramener, parce que l'opposition, on ne fait pas que s'opposer, on fait des propositions. Ce que j'avais proposé au gouvernement, c'était de dire, actuellement, là, les municipalités disent, nous autres, là, on peut pas diminuer la taxe foncière pour les hôtels, même si ça va pas bien, parce que eux ont besoin aussi de payer les factures pour offrir des services à la population ambiante. Alors, moi, ce que j'ai fait comme proposition, j'ai dit à Québec, vous devriez payer le compte de taxe foncière des hôtels, en tout cas pour le deuxième ou le troisième trimestre, là, une partie de ce compte de taxe-là. Comme ça, les municipalités et les villes vont être sûres d'être payées. Et comme ça, ça va donner aussi de la marge de manœuvre aux hôteliers, parce que actuellement, là, il faut comprendre la situation, à quel point elle est critique. 77 % des hôteliers ne pensent pas survivre dans les 6 prochains mois. C'est ça la situation actuellement au Québec.
Vous disiez 12 Alors, prochains mois, donc ça s'est raccourci, là.
Oui, tout à fait. Ça, c'est des données qui viennent d'ailleurs des associations d'hôtellerie. Moi, ce qui me fait craindre le pire, c'est toute la déstructuration possible du milieu, de l'industrie touristique, si jamais là il y a tant d'hôteliers qui décident de remettre les clés, parce que c'est là où nous en sommes, et c'est pas 38 millions de dollars qui vont sauver la situation. Je comprends que la ministre a vu que ces programmes qu'elle avait présentés au mois de juin ne fonctionnaient pas, est en train de retravailler là-dedans, mais on n'a pas la marge de manœuvre nécessaire actuellement pour sauver l'industrie touristique. Et d'ailleurs, je vais me permettre une petite parenthèse, Monsieur Robitaille.
Allez-y, allez, bienvenue.
Merci. En tourisme d'hiver, hein, la ministre ne cesse de dire, là, il faut penser, il faut avoir un peu d'anticipation. Je vais vous dire qu'il y a une autre crise qui s'en vient. C'est celle de la motoneige.
Ah, la motoneige, à chaque année.
Ben, oui, mais cette année, je vais vous dire, le problème, c'est que en zone rouge, les relais de motoneige, donc ceux qui assurent la sécurité, hein, ceux qui permettent justement qu'on puisse avoir des ondes cellulaires dans les relais, où on puisse réchauffer, ou s'il arrive un accident, on est capable d'appeler des secours. Mais les relais de motoneige actuellement se sont fait dire, ben en zone rouge, vous pouvez pas ouvrir votre salle à manger. Et c'est comme ça qu'ils sont capables de faire leur paiement, eux autres aussi, de coûts fixes, là, de chauffage, de main-d'œuvre. Et là, la ministre leur a dit, ben, vous pourriez ouvrir gratuitement, là. Dans le fond, ouvrez, là, puis vous pouvez pas servir de repas. Donc, ils sont pas capables de recevoir le paiement juste du service qu'ils vont offrir. Et s'ils n'ouvrent pas, vous comprenez que ça peut compromettre complètement la saison de la motoneige cette année.
Oui. Ah, ben c'est bon, ça va être plus de monde qui va se mettre au ski de fond.
Ah, ben ça,
c'est bon pour la forme, puis ça fait moins de...
Je sais que vous aimez le chiffon.
Non, mais... Isabelle, ça sent tellement mauvais, la motoneige. Ah, c'est épouvantable, je sens que je vais recevoir des courriels, là, ça va être effrayant.
Mais moi, je veux juste quand même vous rappeler...
Je comprends que c'est une industrie importante.
Oui, c'est ça, qu'il y a plus de 200 000 immatriculations de motoneige au Québec.
J'ai hâte que ça soit électrique.
De la motoneige quand on y pense.
J'ai juste hâte que ça soit électrique.
Hein, ah ouais, ben moi aussi.
L'électrification des transports, ça serait bien parce que quand ça passe tout près de nous, là, je pense au sentier du Moulin ici à Québec, on fait du ski de fond, tout à coup, il y a un endroit où on croise des motoneiges, puis là, ça sent mauvais, puis c'est dangereux.
Ben moi, en tout cas, quand vous me parlez d'électrique, vous savez, comme ancienne ministre de l'Environnement, je suis très heureuse. Et d'ailleurs, je vous parle assise à l'intérieur de ma voiture électrique.
Ah, c'est bien. C'est bien. Ben, vous avez dû aimer le plan d'électrification qui a été proposé cette semaine?
Ah, ben écoutez, c'est une pâle copie, très pâle copie de ce qui a déjà été proposé.
J'ai comme l'impression que c'est plus précis que ce que vous aviez déposé. Mais j'ai même pas le temps d'en parler, malheureusement. Ça fait déjà 10 minutes qu'on se parle.
Ah, écoutez, mais on aura la chance de se rejoindre.
Vous me rappellerez, puis bonne chance avec les... Les banques alimentaires, là. Je pense que il faut donner cette année puis s'occuper de ça, c'est certain.
Il faut penser à ceux et à celles qui n'ont pas le privilège que nous avons d'avoir un emploi, d'avoir des milieux stables. Donc, donnez généreusement, s'il vous plaît. Puis ceux-là qui ont les moyens, pensez aux hôtels, pensez aux hôteliers, pensez à aller vous réserver une petite nuitée là avec votre amoureux, votre amoureuse. Faut les aider, nos hôteliers, on
c'est
les
une
aime.
Idée, ça? Ben oui.
Alors voilà, c'est un appel, un cri du cœur aussi que je fais pour les hôteliers qui travaillent très très fort et qui ont fait la réputation du Québec partout à l'international sur la scène internationale.
Merci beaucoup Isabelle Mélenchon, critique du Parti libéral du Québec en matière de tourisme entre autres. Au plaisir.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez... Là-haut sur la colline.
Le procès de la loi 21 se tient actuellement en Cour supérieure du Québec. En fait, il a été suspendu aujourd'hui, jeudi, pour une raison covidienne. Mais quand même, il a été entamé il y a quelques semaines. Et hier, j'ai pu m'entretenir à ce sujet avec l'avocat Julius Gray qui participe au procès. Bonjour, Julius Gray.
Bonjour.
Vous participez donc à ce procès contre la loi 21. Qui représentez-vous exactement, M. Gray?
Je représente la Commission des droits de la personne fédérale je représente l'Association des anglophones ici.
OK. Donc, le lobby anglophone et une organisation fédérale en même temps?
Oui.
OK. C'est pas un peu surprenant, non?
Non, pas du tout. Ce sont deux mandats complètement différents. Ils sont faits séparément pour d'autres motifs, d'autres choses. Ils ne sont pas contradictoires. On ne pourrait pas le faire si c'était contradictoire.
Okay. Mais
c'est tout à fait différent.
Et la Commission des droits, donc, c'est payé par des fonds publics. Donc, c'est des fonds publics fédéraux qui aident à miner une loi adoptée par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique?
Vous pouvez le penser, mais je n'ai aucune idée.
Non, c'est pas que je le pense, c'est que je vous propose.
Alors ça, je ne sais pas.
Ouais, c'est pas que je le propose, c'est une question qui est soulevée dans l'espace public. Là.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils financent. Par contre, je ne vois absolument rien d'insolite dans le fait que le fédéral ou le provincial participe dans un procès contre l'autre.
OK. vous avez un pied dans chaque solitude, M. Gray, puis depuis longtemps. Là, il y a des procédures unilingues anglaises dans le camp qui s'opposent à l'article 21. Est-ce qu'il y a un fossé entre justement les deux solitudes sur la question de la laïcité et du rapport à la religion?
Non. D'abord, si vous parlez procédures unilingues, les procédures sont normalement unilingues, soit en anglais, soit en français. C'est la Constitution qui donne le droit de choisir chaque avocat, à chaque témoin. Mm-hmm. On n'a pas le contrôle. Comme avocat, je n'ai pas le contrôle total sur la langue de ma prestation. Et même il y a des juges qui vont dire aux avocats, parlez dans la langue de votre client, il est dans la salle, il devrait comprendre. Okay. Alors, c'est une... non, je pense que les procédures sont normalement unilingues. Il n'y a aucune conclusion à tirer de cela. Maintenant, je pense qu'il s'agit d'une contestation qui n'est pas linguistique. Cette cause n'est pas linguistique. Il y a beaucoup de francophones de deux côtés, d'anglophones de deux côtés, d'allophones de deux côtés. C'est une question philosophique, une question assez profonde, et ce n'est même pas une question sur la laïcité, c'est sur la notion de la laïcité.
Oui.
Je pense qu'il est plus difficile d'être plus laïque que moi, par exemple, je n'ai pas de religion, je n'en ai jamais eu, je ne veux pas en entendre parler pour moi-même, pour moi, dans ma vie personnelle, et j'ai tendance à ne pas me questionner sur mon identité, je n'en ai pas. Mon identité, c'est moi et ma famille. Mais
oui, vous êtes souvent montré très critique face à certains membres de la communauté juive qui sont très religieux.
Toujours. Je n'ai aucune préférence, aucune guerre non plus.
Mais en même temps, vous avez défendu leurs droits, si je me souviens bien, les fameuses cabanes juives à Outremont,
absolument.
C'est vous.
Mais oui. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Comme j'ai défendu le droit des Sikhs aux turbans et aux kirpans, je pense que c'est une question profonde qui n'a rien à voir avec la laïcité, mais avec la nature de la laïcité. Pour moi, la laïcité est souriante, l'État est neutre, l'État n'oblige, ne favorise aucune forme de religion ou pratique, ou absence de religion ou de pratique, mais l'État n'empêche pas. Je ne vois pas en quoi un enfant est lésé si son prof porte les hijabs ou la kippa ou n'importe quoi. Je pense qu'il faut se formaliser moins sur ce que les autres font. Mm-hmm. Et pour moi, la vision de la laïcité et de la liberté est qu'il faut toujours favoriser la dissidence, le droit individuel, la façon de penser de chacun plutôt qu'une pensée faite dans une usine pour tout le monde.
Oui, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des uniformes, par exemple, l'uniforme de police pour justement exprimer la neutralité de l'État? Ça, je pense que non, ça a déjà été avancé dans le rapport Bouchard-Taylor, notamment.
Oui, mais la police n'est pas là pour... L'uniforme de la police, c'est pour identifier les policiers, pour savoir qui a le droit d'utiliser un certain degré de force ou un soldat. Elle n'est pas là pour... c'est pourquoi la GRC permet les turbans. On porte l'uniforme de la... Ou l'armée canadienne, on porte l'uniforme, mais on met un turban. Et c'est très différent. Une uniforme, il peut exister même dans une école, on peut l'imaginer, mais ça ne devrait pas affecter la conscience. Donc, je peux voir s'il y avait une uniforme dans une école des filles, que certaines filles porteraient les hijabs si elles voulaient. Et je n'encouragerais absolument pas. Je retourne au fait que je ne fais pas ça pour...
Par prosélytisme.
Dans mes intérêts personnels. Je n'en veux pas.
Non.
Je pense que la liberté de chaque individu, c'est ce qui nous protège contre la dictature, contre un État comme 1984 de Orwell.
Ah oui, vous diriez que la loi 21 est, ressemble
je
à ça?
Je pense que la loi 21, non, ça ne nous amène pas
oui, attention.
En soi au Big Brother, ouais. Mais c'est une des choses qui ont pour tendance à restreindre la liberté, forcer une façon de penser laïcité. Et je pense que dans ce sens-là, c'est un des éléments qui réduisent la liberté individuelle.
Est-ce qu'il est concevable, M. Gray, qu'il y ait une conception différente du rapport entre l'État et la religion au Québec et dans le reste du Canada? Ça a été un peu l'argument de la société distincte qui a été présenté par Benoît Pelletier, un des experts convoqués là, en défense de la loi 21.
Il serait difficile de penser que ça ne peut pas arriver, parce que pendant les premiers 100 ans de l'histoire du Canada, le Québec était manifestement plus clérical, moins ouvert à des idées non catholiques. C'est pourquoi le Québec était en guerre contre les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi le Québec ne finançait pas l'éducation de la même façon, universitaire ou autre. Le Québec était dans la tradition ultra-catholique qu'on trouvait parfois en Flandre, en Irlande, en Pologne. Le reste du Canada était plutôt, sans être particulièrement progressiste, était plutôt common law dans leur attitude envers ça. Donc, il peut y avoir une différence. Mais aujourd'hui, je pense que la différence n'est pas là. Je ne pense pas qu'il y a une grande différence entre les niveaux de pratique de religion chez nous et dans le reste du Canada. Possiblement, le Québec francophone est un peu moins religieux. Moi, je préfère ça. Oui. J'aime ça, vivre dans une atmosphère.
Vous êtes très québécois dans ce sens-là.
Dans ce sens-là, je suis très québécois. Comme je l'ai dit, je rejette toute forme de religion pour moi. Mais je pense que oui. Les différences sont marginales. Et surtout, vous voyez, les autres communautés sont religieuses au même degré. Et si vous prenez les musulmans à Toronto et à Montréal, on va trouver le même degré. Et c'est pas 100% non plus. Mm-hmm. Il faut diviser comme tout le monde. Oui. Heureusement, tout le monde, chaque groupe a ses dissidents.
D'après ce que je comprends, Monsieur Gray, vous remettez en question l'utilisation de ce qu'on a appelé souvent la clause nonobstant, donc la disposition de dérogation. Vous dites que il faut la contourner. Mais ça, c'est que ce ne serait pas renverser une jurisprudence très connue, là, celle de l'arrêt Ford sur la loi 101?
Oui, l'arrêt Ford que j'ai plaidé. Mais je dois vous dire, non, je n'ai pas plaidé Ford, j'ai plaidé cet aspect-là devant les Nations Unies, les causes qui suivaient Ford. Mais je dois vous dire que cette jurisprudence n'est pas aussi impressionnante qu'on le pense. Dans l'arrêt Ford, il n'était pas nécessaire pour la Cour suprême de déterminer si la clause de dérogation était vraiment absolue ou non, parce qu'elle n'avait pas été invoquée. C'était une remarque, ce qu'on appelle un obitaire. Une remarque, par ailleurs, si on avait invoqué la clause d'honneur, nous ne pourrions rien faire, mais puisqu'ils n'ont pas invoqué, on le fait. Mais il n'y a pas de jugement final qui dit qu'il n'y a absolument aucun contrôle sur l'utilisation de la clause d'honneur.
Parce que, pour informer nos auditeurs, vous et les autres avocats qui veulent combattre la loi 21, vous voulez contourner les clauses nonobstant qui ont été mises dans la loi en disant que il y a l'article 28 de la Charte des droits et libertés sur l'égalité qui prime sur l'article 33 qui est la clause nonobstant.
Il n'est pas soumis. C'est comme l'article 23. Vous vous souvenez, le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité.
Oui.
Pas soumis. Ça, c'est une cause que j'ai plaidée. C'est pas soumis à la clause nonobstant. Donc, l'argument de l'article 28,
oui.
Ne serait pas une façon de contourner la clause nonobstant. Mais il y a des arguments où moi, je prétends que l'utilisation de la clause nonobstant ne devrait pas affecter les droits fondamentaux qui existaient avant la charte, c'est-à-dire de religion, d'expression, parce que c'est pas la charte qui nous a donné ça. La charte nous a confirmé, mais ça ne veut pas dire que la charte contient l'entièreté. Deuxièmement, je pense que l'utilisation de la phrase « clause nonobstant » ne devrait pas être permise pour répudier les principes de la charte. C'est pour peaufiner, pour mettre en effet certaines choses et limiter peut-être la portée d'une loi. Mais une loi contre la liberté d'expression avec la clause nonobstant ne devrait pas être admissible, parce que ça va directement à l'encontre de tous les principes. Donc, si le gouvernement voulait adopter une loi qui dit que la liberté d'expression est abrogée, personne ne peut critiquer le gouvernement. Cette loi s'applique nonobstant la charte. À mon avis, ça ne serait pas acceptable.
En terminant, vous avez plaidé plusieurs causes en lien avec la question linguistique. Est-ce que, quand on regarde la situation à Montréal actuellement où l'anglais gagne du terrain, le français semble en perdre dans le service, c'est l'Office québécois qui le dit, c'est le bureau d'enquête du journal qui le dit aussi. Est-ce que vous regrettez d'avoir miné la loi 101? Contribuer à miner la loi 101?
Vous savez, nous vivons dans une drôle d'époque où on n'a pas le droit de contester les choses que tout le monde pense. On nous demande de nous rétracter. On a vu ça avec une députée libérale, de s'excuser pour avoir douté. Moi, je doute de la déchéance du français à Montréal. Je pense que ce qui arrive, c'est que les deux langues principales ont perdu un peu de terrain parce qu'il y a plus de gens d'autres origines, mais c'est à travers le monde. Si vous vous trouvez sur les Champs-Élysées, vous trouvez Regent Street à Londres, Fifth Avenue, vous allez trouver d'autres langues, l'utilisation de services dans d'autres langues. Mais je pense que la loi 101 a fait son travail et que Montréal demeure Montréal a toujours été une ville bilingue. Elle demeure une ville bilingue avec prédominance du français, ce qui est un bon résultat. Je pense qu'il serait regrettable de retourner aux batailles linguistiques. Vous savez, par exemple, les livres de M. Lacroix, « Pourquoi la loi 101 est un échec ?»
Oui.
C'est très facile de montrer que c'est faux. Ce n'est pas du tout le cas. Il traite, par exemple, les institutions hospitalières comme Royal Vic, comme Montréal Général, comme étant des institutions anglaises. En réalité, elles sont bilingues, elles donnent les services dans les deux langues. Mm-hmm. Il m'arrive souvent d'avoir un rendez-vous au General et au Vic et de parler français avec les docteurs, avec les infirmières et tout ça. Ce n'est pas du tout anglais, dans le sens où il prétend. Nous oublions une chose. La loi 101 avait un élément très admirable. Ce qu'on n'a pas créé de catégorie de citoyens, il n'y a pas de statut d'anglophone ou de francophone. Ce qu'il y a, c'est des droits acquis, donnés à certains gens basés sur la langue d'éducation, qu'ils ont eu ou que leurs parents ont eu. Mais ce n'est pas un statut d'anglophone et francophone. Mm-hmm. Mais cela prend pour acquis, qu'il va y avoir des anglophones qui n'auront pas le droit à l'enseignement en anglais. C'est le cas des gens qui viennent des États-Unis, des Caraïbes, d'Angleterre, au début même de l'Ontario. Et il y aura des francophones qui ont ce droit. Meilleur exemple étant ma propre épouse qui a le droit, parce que moi j'ai eu mon éducation. Alors ses enfants peuvent être en anglais s'ils voulaient. Essayer de limiter les services en anglais selon combien de gens ont le droit à l'éducation en anglais, c'est détruire la base fondamentale de la loi 101.
Monsieur Gray, je suis obligé de vous interrompre. C'est tout le temps que nous avions. On va sûrement reprendre ces débats-là plus tard dans une autre entrevue. Je vous remercie infiniment.
C'est un plaisir.
Au revoir.
Okay, au revoir.
Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
Cube Radio.